Bonsoir à tous, bienvenue donc pour cette présentation de l'ouvrage de Pascal Ory, donc Ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire, paru donc aux éditions Gallimard, collection Le Débat, début janvier, et déjà retiré, donc deuxième édition, donc un deuxième retirage donc qui vient de paraître.
Oui, retiré au sens de retirage, pas voilà. Retiré de la vente.
Voilà, non, c'est plutôt gage de grand succès. Donc un mot de présentation sur Pascal Ory, donc, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, rattaché au Centre d'histoire sociale du XXe siècle, donc de Paris 1, chargé de cours aussi à l'École des hautes études en sciences sociales.
Plus maintenant.
Ouais,
j'ai arrêté.
Sciences Po.
À Sciences Po toujours.
Également. L'INASUP.
Toujours.
Donc c'est l'École supérieure de l'image et du son. Mais également aussi à la New York University, toujours.
Visiting.
Également fondateur et toujours président de l'Association pour le développement de l'histoire culturelle. Donc il fait partie des historiens fondateurs hein, de cette discipline qui
j'en connais d'autres
qui a depuis tracé son sillon. Mais c'est également quelqu'un qui a une vitalité débordante, il a 10 vies, c'est impressionnant, il est collaborateur régulier donc, de la presse écrite et audiovisuelle, responsable de rubriques dans les magazines Lire et L'Histoire, dans lesquels il a introduit la bande dessinée. C'est donc quelqu'un qui est très attiré par les marges, autrefois les marges, la bande dessinée, et donc il a réussi à les faire aussi légitimer dans des instances comme ces magazines, chroniqueur à Radio France et régulièrement donc sur l'antenne de France Culture. Mais également reconnaissance multiforme, il a été membre du conseil d'orientation scientifique de la Maison de l'Histoire de France, son expertise donc est très reconnue et même ici à Bordeaux donc on a fait appel à son expertise pour la mise en place du musée des civilisations du vin qui va bientôt ouvrir. Reconnaissance qui est due évidemment à une production qui est tout à fait impressionnante en histoire culturelle et politique. Avec des incursions aussi dans des domaines divers et variés, le jazz, l'histoire du corps, la gastronomie. Mais ce soir, nous laisserons un petit peu de côté ces domaines particuliers pour insister sur, disons, des axes plus fondamentaux qui expliquent l'ouvrage d'aujourd'hui. L'ouvrage donc paru cette année en rapport direct avec les événements dramatiques de janvier 2015. Un ouvrage qui arrive dans son parcours, mais pas du tout par hasard, qui s'inscrit véritablement dans son cheminement scientifique, puisqu'il a travaillé sur la nation, il a travaillé en histoire des idées, sur le dessin de presse, bien sûr, mais globalement sur l'histoire aussi intellectuelle de la France. Bon, je rappellerai quelques titres parmi ses publications, donc un ouvrage sur Goscinny, La liberté d'en rire, Le petit nazi illustré, une pédagogie hitlérienne en culture française, Le téméraire. Je rappellerai le manuel cité par des étudiantes tout à l'heure sur les intellectuels en France de l'affaire Dreyfus à nos jours. Un travail sur Nizan, Destin d'un révolté. Bon, il a travaillé sur l'anarchisme de droite. On sent à travers cet ouvrage évidemment tout ce background scientifique sur la nation. Donc il a contribué à la Somme, les lieux de mémoire, sous la direction de Pierre Nora, à qui est dédié d'ailleurs l'ouvrage, avec des articles sur le grand dictionnaire de Pierre Larousse ou le centenaire de la Révolution française. Également dans l'ouvrage Identité, démocratie, diversité culturelle et mondialisation, repenser la démocratie, sous la direction de Le Guadic, de Ronan Le Guadic, un article Qu'est-ce qu'une nation ? C'est un État. Beaucoup de travaux sur les jubilés révolutionnaires, sur les expositions universelles, et globalement sur l'histoire des politiques symboliques. Et donc, il en est beaucoup question dans cet ouvrage. Dernière parution, avec Marie-Claude Blanc-Chaléard, un dictionnaire des étrangers qui ont fait la France. Je crois que c'est aussi signifiant, puisqu'il est question des problématiques d'intégration dans Ce que dit Charlie. Alors, ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire, qu'on ne s'y trompe pas, même si cet ouvrage traite de l'actualité d'une année, donc c'est de l'histoire immédiate, mais ce n'est pas, disons, un simple essai sur une question d'actualité, les attentats de janvier 2015 perpétrés à Paris contre l'équipe de Charlie Hebdo et dans un hyper-cachère, donc avenue de la Porte de Vincennes. Il s'agit véritablement d'un ouvrage d'histoire immédiate, écrit sur le vif, ce qui en fait évidemment toute la difficulté, mais aussi l'immense intérêt. Comprendre donc janvier 15, c'est ainsi que vous nommez ces événements, comme on peut dire 93, 14, 18 ou 39. L'ouvrage s'emploie à expliquer cet effet de rupture produit en France, mais produit aussi dans le monde. L'impact est aussi fort, selon vous, que les attentats du 11 septembre contre les Twin Towers, et vous l'analysez donc ici. En procédant par comparaison dans le temps et dans l'espace, une comparaison extrêmement stimulante, je dois dire, qui nous fait circuler de l'Antiquité jusqu'à nos jours, pour trouver des clés explicatives à janvier 15, clés religieuses, clés philosophiques, d'Aristote à Voltaire, ou plus encore, vous allez encore plus loin, jusqu'à Alain Badiou ou Michel Onfray, et surtout clés politiques. Et le lecteur progresse donc avec vous dans l'analyse grâce à la mise en perspective temporelle propre à l'historien, grâce aussi à un examen étymologique très serré autour de notions comme utopie, horreur ou slogan. On apprend que slogan est un nom d'origine gallique, du cri de ralliement des clans écossais ou irlandais. Travaille sur l'historique de ces notions, telles que le blasphème, d'où vient le blasphème, comment la notion a évolué jusqu'à aujourd'hui, la notion de terrorisme, voilà. Nous apprenons énormément. Pascal Auré est aussi un pédagogue averti. Alors, la difficulté de penser ces événements vient sans doute, à mon sens, des délais très courts, quand même. C'était ça, hein, le pari principal. Des délais très courts qu'on vous a imposés. L'ouvrage a été remis en septembre à l'éditeur. Mais aussi, je pense, c'est pour ça aussi que ça me paraît aussi très, très impressionnant, rapidité de l'écriture, mais aussi la dimension internationale. Donc, des problèmes à traiter. Et je dois dire que cette lecture est très éclairante, souvent jubilatoire, avec des prises de risques assumées, je suppose, notamment quand il est question des intellectuels français ou de certains universitaires ou philosophes. Des prises de risques assumées. On retrouve enfin dans cet ouvrage un style plein d'aisance qui fait qu'on vous lit toujours avec grand plaisir depuis les années 80 et un rythme, donc style et rythme qui vous sont propres et qui tiennent le lecteur en haleine jusqu'au bout malgré toute la densité, toute la richesse de ces chapitres. Avec des formules qui font mouche, Internet n'est aucunement la voix du peuple, c'est avec son ennemi qu'on fait la paix, c'est avec l'autre qu'on fait l'histoire. Il n'est écrit nulle part que l'avenir des sociétés humaines soit nécessairement tolérant, libéral et humaniste. Nous sommes donc avec cet ouvrage sur un palier, je dirais, au-dessus du simple travail historien, par la maîtrise, j'ose le dire, de plusieurs talents, en un seul livre, talent d'historien, d'érudit, et de penseur de son temps, mais aussi d'écrivain. Voilà, donc j'ai à peu près résumé l'impression générale produite par la lecture de ce livre. Plusieurs questions, bien sûr, pour faire pénétrer le public et faire partager aussi le plaisir de la découverte. D'abord, d'où est venue l'idée de cet ouvrage et pourquoi 13 leçons ? Donc, comment a germé ce projet ?
D'abord, merci à la librairie Mola pour son accueil. Je suis très honoré de figurer dans la liste des invités de cette grande librairie. Et étant moi-même d'origine provinciale, ayant quelques liens avec le Sud-Ouest, bon, voilà, je suis très content d'être là. Et puis merci à Françoise d'avoir été mon interlocutrice, parce que bon, elle sait que j'apprécie son œuvre, que je présenterai peut-être un jour dans des termes aussi favorables. Puis je vois dans la salle des gens que j'aime bien. Voilà. Alors, pourquoi un tel livre et pourquoi 13 leçons ? Un tel livre, je signale au passage, parce que on le sait bien, l'émotion, ce n'est pas du tout négligeable en histoire pour comprendre une société. Bon, l'émotion, j'ai pu la ressentir comme sans doute, à la limite, tous les Français qu'il soit Charlie ou pas Charlie, d'ailleurs. En tous les cas, comme beaucoup de Français. Mais il se trouvait que j'étais de ceux, hélas nombreux en janvier, plus nombreux encore en novembre, qui avaient un lien personnel avec des victimes. Voilà. Il se trouve que j'avais un lien personnel, pas intime, mais quand même personnel et ancien, avec Cabu, voilà. Avec lequel j'avais fait un livre. Bon. Ça n'aurait pas suffi, mais on peut comprendre que ça puisse ébranler, c'est-à-dire mettre en branle quelque chose. Bon. Plus intellectuellement, plus fondamentalement, et ça, ça a été décisif, la découverte, pas très surprise, mais la découverte quand même, comme d'habitude, on peut s'en douter, on peut voir venir, mais le toucher du doigt, c'est autre chose, d'une, ce qu'on appellerait entre nous, là, les historiens, la demande sociale. C'est-à-dire qu'on s'est tourné vers les historiens assez vite. Je signale un livre auquel j'ai participé avec 6 autres collègues, qui a été publié à la mi-février, oui, par un éditeur, Le Nouveau Monde, sur la caricature. Un livre évidemment court, mince, avec des petits textes qu'on a écrits grosso modo en 5 jours chacun, mais bon, 5 jours multiplié par 7, ça fait déjà un petit livre, et puis pas mal d'illustrations d'ailleurs, enfin, j'aime pas tellement le mot illustration, disons une iconographie intéressante avec des dessins qui ont été souvent des dessins assez forts, qui, bref, bon, je n'entre pas dans le détail. Donc il y avait cette demande, à laquelle d'ailleurs ont répondu par des auto-commandes quelques collègues, Patrick Boucheron par exemple, deux collègues spécialistes, l'un de l'Université Paris 1, l'autre de l'Université Paris 4, qui étaient des spécialistes des guerres de religion du XVIe siècle, qui ont fait un petit livre sur les guerres de religion. Vous voyez, il y a eu quand même une sorte d'auto-commande des historiens en se disant ben, « on a peut-être quelque chose à dire ». Alors, en ce qui me concerne, le « quelque chose à dire » partait d'une réflexion, puisque vous avez à juste titre cité mon rapport avec la bande dessinée, et au-delà du dessin de presse, qui ne se confondent pas, bien sûr, dessin de presse, bande dessinée, il y a des liens, mais c'est quand même pas la même chose. Et évidemment, il y avait une réflexion que j'avais déjà engagée sur le statut du dessin de presse et du dessinateur de presse, qui a été un petit peu le noyau original. Et je me suis dit, bon, j'ai pas envie de m'arrêter là. Et les 13 leçons sont venues de ce que, en même temps, je voulais que ce livre parût, imparfait du subjonctif, oui, c'est ça, parût un an après. Donc je devais le remettre à un éditeur, ça a été très vite Gallimard qui était d'accord, et Pierre Nora, que je considère comme un maître, qui était d'accord. Donc, après, ça obligeait à maintenir une certaine hauteur quand on est sous l'œil de Pierre Nora, si j'ose dire, qui est entre autres un homme qui a réfléchi sur l'événement. Ce que je rappelle là, au début, dans le premier chapitre, sidération sur l'événement. Non. Parce que les historiens réfléchissent sur la notion d'événement depuis déjà une génération et demie, et Pierre Nora était pionnier dans ce domaine. Donc, je l'ai proposé, mais du coup, je me suis dit, je vais écrire évidemment rapidement un ouvrage avec l'expertise de l'historien. On reviendra peut-être sur ce que c'est que l'expertise d'un historien dans cette affaire, parce qu'on peut dire l'expertise du sociologue, de l'anthropologue, du politologue, du ceci, du cela. D'accord. Nous, les historiens. Bon. Mais évidemment, compte tenu des délais et même de la nature de ça, en dehors de l'urgence, pour y revenir, en dehors du manque de recul, entre guillemets, bon, formule que je n'accepte pas, c'est plutôt la question de la hauteur que du recul, il y avait la question de ce qui trop embrasse mal étreint. Donc je voulais quand même isoler un certain nombre, finalement ils furent 13, de termes, sans être un peu, comme on dit, nominaliste. C'est quand même important de travailler sidération, ou terrorisme, ou liberté d'expression. Vous voyez, des mots qui brutalement recevaient un très fort investissement émotionnel, intellectuel, etc. de la part d'une société. Donc je crois que c'était assez justifié de dire, bon voilà, une société elle parle, et puis elle prononce des mots, et vous avez tous entendu, et vous avez vous-même prononcé éventuellement, sidération, liberté d'expression, etc. Il y a aussi un chapitre, je, entre parenthèses, ne suis, entre parenthèses, pas Charlie, enfin, voilà. Donc ça va de sidération à soumission, qui d'ailleurs n'est pas sur soumission en soi, mais sur le roman de Houellebecq, c'est-à-dire que là c'était le chapitre sur qu'est-ce qu'un littérateur qui fait de la fiction peut nous dire à nous autres historiens. Voilà, qu'est-ce qu'il vient faire, Houellebecq ou un autre, hein. À une autre époque, ça pourrait être Camus, ou bon, là, c'est Houellebecq. Qu'est-ce qu'il nous dit et comment est-ce qu'on peut, en tant qu'historien, situer la contribution, sans jugement de valeur esthétique, bien sûr, d'un Michel Houellebecq, par exemple, et au-delà de Houellebecq, de l'écrivain. Voilà, donc ça, c'était des questions que j'ai posées sur la table assez vite. Et tant bien entendu, je le dis à la fin d'introduction, que premièrement, il pourrait y avoir non pas 13 leçons, mais 36, hein, et que d'autres peuvent faire un autre livre, ça c'était le mien, voilà, point barre. Et quand je dis le mien, c'est que là, alors là, une des découvertes que j'ai faites le soir du mercredi, du premier attentat, c'est-à-dire le soir de la première manifestation à Paris, place de la République, où il se trouve que je me suis retrouvé, voilà, j'aurais pu ne pas y être, mais enfin bon. c'est qu'il y avait un phénomène qui allait être de masse, mais qui était géré par des individualistes. J'allais dire par vous, par nous. C'est-à-dire une société très individualiste, en fait, à laquelle on peut reprocher, ou au contraire, qu'on peut applaudir d'être individualiste, et qui produit du collectif. Et ça, c'est à la fois élémentaire, en même temps, ça fait réfléchir. Le meilleur exemple de ça, c'est les monuments spontanés qui sont nés Place de la République dès le mercredi soir. Ce sont les grandes manifestations des jours suivants. Ce sont les monuments après novembre devant le Bataclan, rue de Charonne, etc. C'est-à-dire de grands monuments qui sont des monuments d'individualistes, c'est-à-dire que chacun apporte une bougie, une fleur, un petit dessin, et tout ça, ça fait un grand monument. Et ça, c'est assez impressionnant. Donc ça fait réfléchir sur ce qu'est une société. Et comment elle... Parce que, dernier point, quand je refermais le livre après l'avoir écrit, ce dont j'étais convaincu, c'est que le grand événement de 2015, et soyons historiens, moi je vous parle de 2015, 2016, bon, je ne suis pas prophète, vous savez qu'il n'y a qu'un seul prophète, il a un P majuscule, donc je ne suis pas prophète, je suis historien. Mais en 2015, le livre refermé, l'année 2015, même avec novembre refermé, le plus surprenant, le plus remarquable au sens étymologique, ce n'est pas les attentats, c'est la réaction de la société. Parce que les attentats, d'une certaine façon, ils étaient prévisibles. Hein. Charlie avait déjà été attaqué clairement une fois, vous avez le 11 septembre, vous avez... Bon, hein. Donc on pouvait, et on peut continuer. On peut dire que ce soir, en sortant de ce débat, peut-être qu'on apprendra qu'il y a une quatrième vague, etc. Bon. Non, ça, c'est faiblement imprévisible, si j'ose dire. Non, l'imprévisibilité, c'est... Mais comment une société, qui s'appelle la société française, dans l'espèce, et vous pourriez dire la société tunisienne, la société américaine, ceci, cela, norvégienne, comment elle réagit? Et ça, c'est complètement imprévisible. Et ça, c'est passionnant de voir comment la société française a réagi.
Ça veut dire que pendant ces journées-là, pendant ces manifestations-là, on a réinventé le collectif en France, ce collectif dont on désespérait. En gros, bon, on vit dans des sociétés où on ne s'engage plus. Voilà.
Ouais. Là, dans quoi je ne vais pas m'engager, c'est de savoir si on avait perdu le sens du collectif. Moi, je pense qu'il y a des formes de collectif qui renaissent sans cesse. Mm-hmm. Il y a peut-être en particulier des formes assez individualistes de collectif. Mm-hmm. Je précise bien individualisme, vaste problème, hein. Individualisme, c'est un mot en isme. C'est-à-dire que l'individu, j'aurais tendance, je ne sais pas ce que vous pensez, Françoise, et ce que pensent les historiens que je vois dans la salle, mais je pense, hypothétiquement, on pose comme hypothèse, l'individu, il a toujours existé. Même dans les sociétés apparemment les plus communautaires et communautaristes, l'individu, évidemment, existe. Je pense qu'à l'époque de Cro-Magnon, il y avait des individus. Sauf que la documentation, etc., fait que, bon, on a très, très... Regardez la réussite d'Alain Corbin quand il prend, il extrait au 19e siècle un paysan, Pinago. Mmh. Donc l'individu existe. L'individualisme, c'est autre chose. Je pense que le 21e siècle occidental est très individualiste pour diverses raisons. Mais ça n'empêche pas de produire du collectif. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'à la veille, et ça c'est quand même assez impressionnant, le livre d'Houellebecq, par exemple, vous vous le rappelez, il est mis en librairie le mercredi matin. C'est quand même impressionnant. La campagne Houellebecq a commencé avant, puisqu'il est passé au journal télévisé en direct le mardi soir sur France 2. Mais enfin, c'est quand même impressionnant. Donc, entre le succès d'Éric Zemmour, le succès prévisible du livre de Houellebecq, Soumission, bon, il y a l'idée quand même que cette société est plutôt quand même malade. Que, bon. Donc moi, je ne vais pas me prononcer.
C'est un constat.
Je constate que le discours est ça. Voilà, moi, je constate un discours. Bon. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est vraiment malade. Bon, ça, c'est un vaste problème. C'est un problème de citoyen, etc. C'est un jugement de valeur. Et je ne suis pas en train de dire non plus que cette maladie hypothétique se traduirait par exemple, une crise du collectif. Ce que je constate, c'est qu'on croit qu'il y a une crise du collectif. Mm-hmm. Et d'une certaine façon, quand on y croit, c'est performatif. Ça produit de la crise. On croit que c'est la crise, ça produit de la crise. Bon. Okay. Et c'est une boule de neige ou d'autres choses. Okay. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont il y a eu des réponses qui n'étaient pas que de crise. Ce qui est réponse de crise, c'est qu'il n'y a pas eu d'unanimité, d'où le chapitre « Je ne suis pas Charlie ». Alors, sur ce point, pour être très clair, l'une des petites hypothèses que j'avance quelques petites hypothèses personnelles, bon, par exemple, ce collectif fait par des individus, etc. Il y a une autre petite hypothèse que j'avance, c'est que l'ampleur des manifestations de janvier est liée au fait que les médias, au sens large, ont été mobilisateurs, extraordinairement mobilisateurs. Et pourquoi l'ont-ils été, plus que dans d'autres circonstances? C'est qu'ils ont compris à la minute même où ils ont appris l'agression, avant même qu'on connaisse les noms, etc., que c'était eux qui étaient visés. les cibles, c'était une rédaction. C'est quand même, c'est-à-dire c'était des dessinateurs. Je reviens sur le côté chauve-souris du dessinateur de presse, qui est à la fois dans un artiste d'un genre très inférieur dans les hiérarchies et un journaliste d'un genre très inférieur. Bon, donc, bah oui, les dessinateurs de presse, ils étaient inférieurs dans les deux côtés par rapport. Bon. Mais la partie journaliste de leur être a été directement atteinte. C'était une rédaction et toutes les rédactions de France, de Navarre, d'Occident, d'une certaine façon, et en partie du monde, ont réagi en disant « mais on massacre des journalistes ». Ça, je crois que c'était très important dans les mobilisations. Ça a été essentiel pour comprendre pourquoi c'est liberté d'expression qui, je dirais, vers 15h, 15h30, hein, de l'après-midi, avant même que la manifestation ait commencé, le mercredi, a surgi. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est à propos de « Je ne suis pas Charlie ». C'est peut-être que, dans les médias, s'est instaurée l'idée que « ah, ben voilà, quand on voyait les masses extraordinaires qui descendaient dans la rue, bon, les relais à l'étranger, bon, ben c'était clair, la France était Charlie ». Or, bien entendu, puisque je parle de qu'est-ce qu'il y a d'éléments de crise, c'est que jamais, à aucun moment de l'histoire, je pense que vous serez d'accord Françoise, les historiens seront d'accord là-dessus, ils peuvent ne pas être d'accord, jamais vous n'avez connu, jamais vous ne connaîtrez d'unanimité. L'unanimisme, c'est de se dire rassemblons-nous, faisons collectif. Mais, bien entendu, par ailleurs, il y a évidemment toujours des minorités, des dissidences. Et ça a été une surprise, me semble-t-il, dans certains médias, de découvrir qu'il y avait des « je ne suis pas Charlie ». Alors que c'était tellement évident. Que, voilà. Alors après, ça a peut-être rééquilibré les choses. Après, on peut discuter de l'analyse de qui n'était pas Charlie, ça, j'y reviens. Je connais bien Emmanuel Todd depuis très longtemps, c'est même, on peut dire, un ami personnel, mais je ne partage absolument pas les conclusions de son livre, bon, par exemple. Bon, mais c'est ça. Donc, il y avait des éléments de crise qui pouvaient être posés sur la table, là aussi, en disant « oui, mais attendez, cette France n'est pas unanime ». Mais je pense que le problème n'était pas là.
Ceci dit, vous allez jusqu'à dire que le peuple est descendu dans la rue. Et donc
c'est non, je vais jusqu'à signaler que...
C'est un moment quand même exceptionnel.
Je dis que la notion de peuple est invérifiable en histoire. C'est une invention. C'est une invention démocratique. On fait une souveraineté populaire parce qu'on invente le peuple. Ça. Bon, on va dire que ça se fonde avec une modernité qui s'étale du XVIe au XVIIIe siècle. On invente le peuple, bon. Et d'ailleurs, ce qui m'agaçait toujours, c'est lié à ça, mais c'est avant, c'est quand, par exemple, écoutant une chaîne d'information continue, télévisuelle ou radiophonique, on entendait de temps à autre des formules, par exemple, au moment du entre guillemets, printemps arabe, le peuple tunisien est descendu dans la rue. Ça n'existe pas. Un peuple ne descend jamais dans la rue. On a comparé, par exemple, les marches impressionnantes, de masse, impressionnantes, peu importe les chiffres exacts, qu'on ne saura jamais, mais ça. On peut dire sans commune mesure, dans l'histoire française, du samedi, enfin du mercredi, jeudi, mais surtout vendredi, mais encore plus samedi, mais encore plus dimanche de janvier, on les a comparés entre autres à la libération de la France. Mais en 1944, est-ce que vous pensez qu'il y avait unanimité? Évidemment pas. Peuple français n'est pas venu en 1944 non plus acclamer à 100%, voire à 110%. C'est libérateur, et il y avait des gens qui n'étaient pas du tout joyeux de ça. Donc ça me paraît normal. Ça me paraît tout à fait normal. Donc le peuple, c'est une invention démocratique utile, c'est une sorte d'illusion utile. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir comment une société qui est forcément du coup plurielle, qui n'est pas forcément d'accord sur tout, réagit. Et pour anticiper peut-être sur une question sur... Et novembre dans tout ça, puisque moi j'ai écrit volontairement, je n'ai rien ajouté après novembre, ce qui est très frappant, c'est que novembre est bien sûr dans la continuité de janvier, pour au moins deux raisons, parce que mécaniquement, on voit bien que c'est à peu près la même idéologie, c'est pas les mêmes groupements, mais c'est la même idéologie, c'est la même stratégie, par ailleurs, c'est-à-dire le terrorisme, je ne sais pas si on reviendra sur la stratégie qui s'appelle le terrorisme depuis le 19e siècle au moins, mais la différence, c'est que les cibles, parce qu'il faut parler en termes balistiques, et on peut ajouter un jugement de valeur tristement, les cibles étaient très élargies par rapport à janvier. En janvier, vous aviez clairement deux cibles, hein, disons-le avec violence, deux cibles. Vous aviez d'abord les blasphémateurs le mercredi, et vous aviez le vendredi les infidèles, les juifs. Tandis que en novembre, c'était effectivement un genre de société, on peut dire une culture, certains auraient dit une civilisation comme M. Huntington, qui était agressée, mais je ne surinterprète pas du tout. Je ne suis pas en train de dire « oui, j'ai sorti ça de mon... » Non, je sors ça des documents. C'est-à-dire le communiqué de Daesh que vous avez peut-être lu. On le trouve par exemple dans le livre de Gilles Kepel, etc. Vous avez le communiqué de Daesh qui, quelques heures plus tard, dit Paris, capitale de l'abomination et de la perversion. C'est-à-dire que c'est un genre de vie qui est attaqué. Bon, je ne détaille pas. Et là, du coup, effectivement, il y a très peu de « je ne suis pas Bataclan » parce que parmi les victimes virtuelles ou réelles de novembre, il y avait des gens qui n'étaient pas Charlie. Vous imaginez que si les terroristes étaient entrés dans le Stade de France, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Hein. C'était là qu'il y aurait eu le plus de morts. Et sur, au Stade de France, il y avait des gens qui n'étaient pas Charlie. Hein. Donc là, c'est la différence, mais qui se situe dans une continuité. Je rappelle qu'après Paris, il y a eu Copenhague, il y a eu la Tunisie, etc.
Bon, on parle du terrorisme. Allez, on parle du terrorisme, parce que vous proposez des comparaisons dans le temps, donc notamment terrorisme anarchiste de la fin du 19e, le terrorisme brigadiste des années 1970, et puis le djihadisme individualiste de 2015. Alors, en quoi peut-on établir des parallèles entre ces différentes périodes et...
Là aussi, ce qui paraissait intéressant, c'était de réfléchir aux éléments, disons, d'analogie, et puis aux différences, évidemment. Les différences qui font l'histoire. Mm-hmm. Bon, à la limite, comme effectivement, pour moi, l'historien ne travaille pas du tout sur le passé, mais sur le temps, vous imaginez que je n'ai pas été le seul, évidemment, dans les amphithéâtres, dans les séminaires, à arrêter... mes cours et mes séminaires en janvier comme en novembre pour discuter avec les étudiants. Bon. Et entre autres, ce que je leur disais après novembre, c'est que s'ils n'avaient pas encore compris ce qu'était l'histoire, ben, maintenant ils pouvaient comprendre. C'est tout ce qui à la fois réunissait et différenciait janvier de novembre. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'on voit bien en quoi novembre était une répétition de janvier, mais pas que. Et tous les petits deltas là, c'est ça l'histoire. Le temps qui passe. Et donc, le terrorisme, pour moi, si on remonte à la fin du 19e siècle, on voit bien les points communs. Et ça, je suis prêt à en discuter en séminaire avec des collègues qui diraient « Oui, quand même, non ». Étant bien entendu que les valeurs paraissent complètement différentes. Les valeurs de la volonté du peuple russe des années 1880 sont quand même très éloignées des valeurs de Daesh. Mais moi, je suis en train de parler là, pas de l'idéologie, dont on peut parler dans d'autres chapitres, je parle de la stratégie. La stratégie est quand même fondamentalement la même ce soir, hein, puisque c'est une question toujours d'actualité, et dans les années 1880 et 1890. C'est-à-dire que vous avez un système avec un gros S qu'il faut abattre, qui est considéré comme injuste, insupportable, etc. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus, j'enregistre. Et il faut l'abattre en introduisant la guerre au sein d'un système qui cherche à refuser la guerre, qui est pacifié hein, par l'ordre public. On introduit la guerre ou on réintroduit la guerre. Et grâce non pas au nombre de morts, parce qu'un tsar, ça peut valoir plusieurs milliers de morts, et c'est Alexandre II, par exemple. On s'y reprend, je ne sais pas combien de fois, pour assassiner Alexandre II, finalement réussi. On assassine donc un tsar réformiste, qui est remplacé d'ailleurs par un tsar bien dur, traumatisé de surcroît par ce qui est arrivé à son père, etc. Bon, donc il s'agit d'attaquer le système, de terroriser, tuer... pourquoi pas, mais d'abord terroriser, de telle sorte que le système se durcisse, et ça donne en France les lois dites scélérates, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire le système, c'est fonctionnel. Vous n'imaginez pas un seul instant que vous auriez eu en France une autre réaction que la réaction du gouvernement en place, hein, qui s'appelle le Manuel Valls ou pas, c'est fonctionnel. Si ce soir, en descendant là, dans la rue, on apprend qu'il y a une troisième vague, vous imaginez que demain matin, vous aurez encore une élévation du niveau de durcissement du régime. C'est fonctionnel. C'est le but du terrorisme, sauf que les terroristes sont des optimistes. Ils pensent qu'un régime comme ça, en se durcissant, va tellement se durcir qu'il va casser, parce qu'il va y avoir des contradictions internes. Et ça ne se produit pas en Russie, puisque l'empire des tsars n'est pas tombé sous les coups du terrorisme, mais sous les coups de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas ce qui est arrivé avec la Troisième République. Kropotkin, que je cite à un certain moment, au moment du procès de Lyon, rappelle plus tard que ses camarades, au moment des premières vagues d'attentats dits anarchistes, disaient « bon, le système va-t-il tenir quelques années ou simplement quelques mois ?» C'était la question de savoir si ce régime bourgeois insupportable allait tenir quand même quelques années. Les pessimistes dans le groupe pensaient qu'il allait tenir quelques années, les optimistes, ça serait une question de mois. Bon, que je sache, le régime sous la forme, par exemple, de la Troisième République. Il s'est durci, loi scélérate. Je rappelle que la formule loi scélérate est essentiellement due à Léon Blum, donc pas un anarchiste.
Utilisée par Edoui Plenel récemment sur le propos de la loi sur renseignement.
Oui, mais Léon Blum était au Conseil d'État. Bon, bref. Donc, mais quand il avait rédigé ça, il s'associait d'ailleurs à un anarchiste. Donc, les lois scélérates ont durci le régime, et la Troisième République, aux dernières nouvelles, n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée comme ça. Les deux autres régimes, d'ailleurs, sont tombés du fait d'une grande guerre. Et j'ai d'ailleurs une petite illumination de rien du tout. Je me suis rendu compte que Lénine avait un frère, c'est presque un titre de roman. Lénine avait un frère aîné qui a choisi le terrorisme et qui en est mort immédiatement. Je pense que la pensée de Lénine peut s'interpréter entre autres à la lumière de l'échec de son frère, c'est-à-dire que le léninisme, c'est pas du terrorisme, c'est autre chose. C'est le pas de côté, c'est-à-dire avec des points communs, mais c'est évidemment pas une stratégie terroriste. Lénine a tiré les leçons de l'échec complet du... Et la bande Abadère n'a pas renversé la RFA, que je sache. Hein. Vous avez peut-être repéré que la République finalement n'est pas tombée sous les coups de la bande Abadère, etc. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire que Daesh échouera, je n'en sais rien. Je constate que la stratégie est quand même très apparentée. Elle est mise au service de valeurs très différentes, bien sûr.
Avec la théâtralité aussi, vous insistez beaucoup sur la théâtralité.
La théâtralité, bon. La théâtralité extrême de l'attentat en soi. Alors, voulu évidemment, mais aussi qui sort du fait que la société est forcément en spectacle devant quelque chose qui est exceptionnel, qui est agressif, qui est violent, qui est sanglant, etc. Bon. Alors par ailleurs, vous avez le travail de la propagande et il faut reconnaître que les vidéos de Daesh mériteront un jour une analyse très très fine, parce que je ne sais pas si vous êtes arrivé de regarder l'intégralité des fameuses vidéos qui passent en boucle. Non pas les petits extraits, c'est un petit peu comme le Triomphe de la Volonté, là, le génial film nazi de Leni Riefenstahl, dont on voit toujours quelques extraits où on voit Hitler qui postillonne devant un micro, etc. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais bien sûr que c'est pas ça. Le Triomphe de la Volonté, c'est un film qui prend son temps et qui vous mène jusqu'à un climax. Bon, les vidéos de Daesh, c'est 2% de vidéos qui sont destinées à nous terroriser, qui sont vraiment secondairement peut-être à terroriser les partisans de Bachar el-Assad, d'accord, mais quand même fondamentalement les Occidentaux, ça fait 2%. Hein. Et elles sont absolument atroces. Hein. Il y a eu au banquet du livre de la Grâce, là, dans les Corbières, il y a eu la projection l'année dernière, sous l'égide de Jean-Louis Comolli, des versions complètes des vidéos atroces, les 2%. Bon, évidemment, il y avait des gens qui sortaient pour vomir, quoi, parce que c'est pas les petits extraits. Hein. C'est-à-dire quand on voyait qu'on filme, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on filme, qu'il y a des caméras sous l'eau pour voir des prisonniers qui sont dans des cages et qui vont se noyer sous vos yeux et qui s'agitent jusqu'à ce qu'ils meurent, et qu'on a prévu les caméras pour voir ça. Bon. Donc, le spectacle, il va loin avec le but de terroriser l'adversaire, bien sûr. On sait très bien ce qu'on fait. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la théâtralité. Le record, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est à peine plus soft, c'est quand même, ça fait réfléchir les historiens. Maurice Sartre, Paul Venn. Paul Venn a écrit là-dessus. Maurice Sartre, pour la même raison, s'est refusé à écrire pour l'instant. Donc les deux grands spécialistes qui pouvaient intervenir en France sur Palmyre. Mais c'est cette séquence, on peut dire quand même extraordinaire. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. Où on a vu sur la scène du théâtre de Palmyre, donc théâtre antique, où venaient des gens qui, à l'époque, vers le 3e siècle de notre ère, étaient très hellénisés. Donc, avait lu Aristote. Donc, avait lu les théories sur la catharsis. Hein, comment le spectacle, c'est la purgation des émotions, etc. Et vous avez peut-être vu au moins le morceau de vidéo où on voit des soldats apparemment de Bachar el-Assad, prisonniers, qu'on fait monter sur scène avec des jeunes derrière, parce que ce sont les jeunes qu'on met, qui les tuent d'une balle dans la nuque. Et ça se déroule sur la scène du théâtre antique de Palmyre, devant un public de palmyrétains qui sont là, bon, contraints, forcés ou pas. C'est-à-dire que c'est pour les gens de Palmyre, mais c'est bien sûr pour l'Occident. Donc, on est quand même obligé de réfléchir sur la dimension spectaculaire du terrorisme. C'est un élément parmi d'autres.
Vous dites que la question posée par Janvier 15 est plus politique que théologique.
Alors, vaste problème. C'est-à-dire que... Une fois de plus, j'aurais tendance à dire que les historiens peuvent apporter une petite expertise qui est linguistique, bon, sur ces questions-là. C'est-à-dire, méfions-nous des mots. crois que d'ailleurs Confucius a dû dire une phrase un peu comme ça jadis. Religion est un mot non seulement très lourd de sens, tout ce qu'il charrie depuis des siècles, mais très ambigu. Et quand on monte dans le temps, il y a un moment, il ne faut plus l'utiliser. Et d'ailleurs, les contemporains, à ce moment-là, ne l'utilisent pas. Parce qu'avant ce que j'appellerais la révolution chrétienne, donc là, on remonte déjà à 2000 ans, pour essayer de se faire comprendre, la distinction religion-politique, c'est une distinction incompréhensible, bien entendu. C'est-à-dire que vous avez des communautés humaines qui ont un système qu'on peut qualifier de politique, bon, et ils ont la symbolisation de ce système qu'on peut, aujourd'hui, quand on arrive par derrière, là, avec nos 2000 ans de christianisme, on peut dire, ah, ça, c'est la religion. Mais un Romain, un Athénien, etc., il ne faisait pas ce genre de distinction. D'où, d'ailleurs, le drame et qui se noue, et qui se dénoue favorablement pour les chrétiens, auprès des chrétiens, qui, eux, ne jouent plus ce jeu-là. Alors qu'on leur dit, écoutez, faites les gestes rituels, au fond, le religieux, c'est la ritualisation en particulier de ce symbolisme, et faites les gestes qui prouvent que vous êtes Romain. On ne vous en demande pas plus, on ne vous demande pas de croire vraiment que Jules César est un dieu, mais vous faites les gestes. Et eux, ils disent, ah ben non, 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 Dieu est au-dessus de ça. Alors là, bon, ça se termine d'abord un peu mal pour les chrétiens au départ, puis finalement bien. Mais ça, c'est une vraie révolution. Tous les systèmes humains, jusque-là, fonctionnent sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas séparer le religieux du politique. Il faut quand même penser à ça quand aujourd'hui on dit, ah, mais est-ce que c'est religieux, est-ce que c'est politique ? Dans la majorité de l'expérience humaine, on a fonctionné sur une non-distinction. C'est ça la règle de l'humanité pendant des siècles, des millénaires, et sur une large part du territoire de la planète. Et puis peu à peu, s'introduisent, pour des raisons, bon, sur lesquelles on ne va pas s'éterniser, ce n'est pas un cours ce soir, s'introduisent des éléments de distinction. Et la modernité politique, en particulier, établit quand même une sorte de béance entre... Alors là, pour le coup, une instance qui serait de religieux, une instance qui serait de politique, et on invente à ce moment-là la notion de laïcité, entre parenthèses, déjà avant 2015, mais ça s'est confirmé en 2015, j'étais sceptique à l'égard de la thèse consistant à dire « Ah, la laïcité, c'est tellement particulier à la France que ça, c'est intraduisible ». Je rappelle qu'en anglais, il y a quand même « secularism », qu'on pourrait discuter sur le synonyme, mais bon, il y a de toute façon des expériences et des réflexions sur la laïcité qui ne sont pas propres à la France. Y compris maintenant, ça c'est le côté 2015, 2010, 21e siècle, y compris pour, entre guillemets, des mauvaises raisons, je ne me prononce pas, en ce sens que la notion de sécularisme peut être promue, en particulier dans une perspective islamophobe, en disant, bon, quand même, il faut être laïque, sous-entendu, il faut être anti-musulman. Mais peu importe les raisons, le résultat, c'est que ce type de discours peut être soutenu au-delà quand même des frontières françaises. Ceci posé, les agressions ont eu lieu en France, donc c'est très intéressant, évidemment, de réfléchir, d'où le chapitre sur la laïcité, sur le lien que ce pays entretient avec la notion de laïcité. Et pour moi, l'hypothèse est évidemment, enfin, je suis obligé de l'avancer aussi, et celle des cultures religieuses. Parce que vous avez peut-être observé que les trois grandes révolutions fondatrices de la modernité politique en Occident sont des religions protestantes, ce sont des cultures protestantes. Et ce sont des révolutions protestantes. Le protestantisme est l'énergie des provinces unies, parce qu'on les oublie toujours, c'est les provinces unies d'abord, au XVIe siècle, c'est l'énergie de la révolution anglaise de 1688, que Madame Thatcher, ironiquement, renvoyait à François Mitterrand en disant « Oui, oui, vous pouvez célébrer le bicentenaire, mais nous, on a un siècle et un an d'avance sur vous. » 1688, la glorieuse révolution, et puis la révolution américaine. Elle précède la révolution française, que je sache. Elles sont toutes les trois issues de cultures protestantes. Et elles ne sont absolument pas en contradiction. Au contraire, c'est le protestantisme qui en est l'énergie. Hein. Province unie contre l'Espagne, là, contre Jacques II, et là, une certaine forme de protestantisme contre l'anglicanisme. Bon, bref, il n'y a pas de contradiction du tout. Il n'y a pas de contradiction du tout. Et puis arrive la quatrième révolution française, elle a lieu dans un pays de culture catholique. Et là, ça tourne au grabuge. Ah oui. Alors, il y a plein de raisons. Et donc, c'est la constitution civile du clergé. Parce que la grande date de la Révolution française, c'est la constitution civile du clergé. La Révolution française est possible grâce au 14 juillet. La nation est proclamée en juin. Mais ce qui fait le style, le French style, c'est la constitution civile du clergé. Et ça, la France ne l'a pas complètement résorbée. L'a résorbée un siècle et demi après. Enfin, Aragon, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ça, enfin, pendant un siècle et demi, c'est... Bon. Voilà. Il faut réfléchir à ça.
Alors, on a le sentiment que la laïcité a du mal à être opérationnelle aujourd'hui. Enfin, vous rappelez la commission Stasi. Bon, c'est une notion qui est évidemment réactivée, comme toutes les notions liées à la symbolique républicaine, aux outils de la République depuis ces drames, et depuis janvier 2015. Mais est-ce qu'elle vous paraît opérationnelle, ou est-ce qu'elle peut paraître aussi dans certains cas dangereuse, puisque il y a aussi laïcité, islamophobie, ça vous le soulignez aussi dans
Moi, j'essaie
l'ouvrage.
d'être observateur sur ce plan-là et d'essayer de comprendre pourquoi ça marche dans un certain sens, pourquoi ça marche bien ici et ça se grippe ailleurs, etc. Donc, je ne sais pas si la manière dont la laïcité est prise en charge, commission Stasi ou le reste, Bianco, etc., si ça va dans la bonne direction. Ce que je constate, c'est que ce sont des solutions françaises assez spécifiques, en même temps qui posent des questions de fond, à savoir qu'est-ce que c'est que la distinction du religieux du politique. Je constate quand même que ça permet d'éclairer le début du drame et la suite, y compris les malentendus avec les États-Unis, parce qu'évidemment, caricaturer, vous retournez les spécificités françaises, vous obtenez les États-Unis, c'est étonnant. D'ailleurs, culture catholique et monarchique étatique, et puis culture protestante démocratique, quand même, vous obtenez les États-Unis. Bref, le floutage, par exemple, le floutage dans la presse américaine des caricatures
Il y a
de
une
Charlie.
moindre tolérance par
Ah
rapport aux
ben vaste,
caricatures
vaste problème, parce que c'est à la fois
dans le
le
monde
pays du premier
anglo-saxon.
amendement, etc. Mais bon, alors culture protestante, enfin bon, respect des différentes spécificités. Toujours est-il que si on se penche sur la France, ça permet quand même de remettre sur le chantier la question de la laïcité. C'est-à-dire que ça donne du poids à la question, à la formule, à la recherche de solutions, si on suppose qu'il y a un problème, on peut penser qu'il y a un problème. Donc il me semble quand même que ça donne de la gravité au sens étymologique du terme, gravis, c'est-à-dire ce qui pèse, ça donne de la gravité à la question, et on ne peut plus simplement dire, oui, on a compris, c'est des querelles entre les curés, les bouffeurs de curés. Non, c'est vraiment qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble? Jusqu'où est-ce qu'on admet l'expression de spécificité dans l'espace public, par exemple? Parce que ce que je constate, c'est à quel point les catastrophes accélèrent aussi, soit des prises de conscience, soit des prises au sérieux. Bon, il y a quand même autour de la laïcité, en fait, d'autres questions. Par exemple, qu'est-ce que c'est que l'espace public? Voilà. Le foulard, c'est. Après, il y a des gens qui auront des points de vue différents. Mais au moins, on affine la notion d'espace public. Et à quoi ça sert l'espace public? Et où est-ce que c'est de l'espace privé? Voilà. Les prières peuvent être avoir lieu dans la rue, bon, etc. Et puis, après tout, il y a encore en France des régions qui sont sous le Concordat. Mais alors, le Concordat, qu'est-ce que vous faites de l'islam dans le Concordat? Voilà. Je trouve que c'est des questions intéressantes, légitimes, qu'il faut pas mettre sous le tapis. Donc c'est, hélas, hélas, je sais bien que je peux me faire lyncher, mais je suis obligé devant des situations comme ça de réutiliser le proverbe à quelque chose, malheur est bon. C'est-à-dire que ça amène à discuter de questions fondamentales. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce que c'est la liberté d'expression? Jusqu'où ça peut aller? J'avais l'habitude d'ironiser avec mes étudiants depuis longtemps sur le fait que toutes les catastrophes contemporaines permettaient d'affiner notre connaissance géopolitique, par exemple. Le nombre de Français qui, évidemment, il y a 25 ans, ne pouvaient pas faire la différence entre. D'ailleurs, bon, c'est pas de savoir s'ils savent mieux faire la différence, mais ils ne savaient pas qu'il y avait des sunnites et des chiites. Maintenant, je pense que beaucoup de Français savent qu'il y a
Oui,
des
c'est
sunnites et des
acquis, je
chiites.
pense.
Bon, voilà. Et que ça vient de. Et puis, alors après, on peut dire, ah ben, il y a plusieurs styles de chiisme et de sunnisme. Bon, de la même façon. La Yougoslavie, c'était un grand ensemble. Quand la Yougoslavie éclate, on découvre, ah tiens, il y a des Serbes, des Croates. Et puis même, il y a la Bosnie. Et la Bosnie, c'est encore plus compliqué parce que c'est une Yougoslavie en petit. Donc de catastrophe en catastrophe, on se perfectionne énormément. Bon, mais plus sérieusement, je peux dire que l'année dernière, ce pays a quand même pris au sérieux ces questions-là. Les librairies, puisqu'on est ici dans une librairie, je consacre quelques pages à ça. Les librairies,
Tolérance.
et je cite un éditeur qui est d'ailleurs par hasard le neveu de Pierre Nora, Olivier Nora, qui est le patron de Fayard. Et Olivier Nora a à un certain moment dit qu'il a, honnêtement, il a dit qu'il a été complètement surpris. Il parle de contre-pied, plutôt de contre-intuitif. Quelqu'un comme lui, jeune, brillant éditeur, était absolument persuadé qu'au lendemain des attentats de janvier, les librairies seraient vides. Hein, on voit. Et elles ont été, non pas pleines, mais elles ont été remplies de gens qui avaient envie d'en savoir plus, d'acheter des livres sur la géopolitique. Et le traité sur la tolérance de Voltaire comme icône. Et après novembre, Hemingway.
Oui, absolument.
Paris est une fête. Ben, je trouve ça très intéressant. On pourrait ajouter le jugement de valeur que c'est plutôt une réaction positive que de dire « Ah, j'ai peur de me faire abattre, je reste chez moi et je regarde des matchs à la télé. » Non, mais non. Non, mais je suis très sérieux en disant ça. Donc, voilà, je trouve assez intéressant, voire remarquable dans tous les sens du mot, comment une société réagit.
Écoutez, je vous encourage vivement à le lire parce que nous n'avons pas pu, évidemment, en trois quarts d'heure tout explorer. Et vous pourrez y prendre, à mon avis, plaisir et trouver des réponses. Voilà.
Merci.